Eh bien, écoutez, merci de votre présence, malgré la concurrence un petit peu bruyante d'une démonstration sympathique d'ailleurs. Tu es un petit peu déplacé, c'est des petits problèmes parfois techniques auxquels on ne pense pas quand on planifie, on oublie qu'il y a en même temps un Magic Mirror 1 où il y a un débat. Mais on va y arriver quand même et puis on va pouvoir discuter avec nos invités qui sont capables de faire face à tout déjà, ils ont écrit des romans, c'est déjà beaucoup. Par-delà les âges farouches, hier et autrefois, alors il y a évidemment un petit clin d'œil pour les habitués des littératures de l'imaginaire, parce qu'il y a une référence à une collection de science-fiction qui s'appelle toujours Ailleurs et Demain. Et donc, je trouvais amusant de parler de livres qui parlaient plutôt du passé en disant autrefois et ailleurs. Et puis par ailleurs, par-delà les âges farouches, c'est aussi, pour les gens de ma génération, une référence à Rahan. Rahan, je pense que certains de nos auteurs l'avaient repéré. C'était une sorte de petit clin d'œil, de petit hommage que je voulais passer à ces littératures pour la jeunesse. Il se trouvait que c'était un journal fait par le Parti communiste. J'en avais aucune idée quand j'étais jeune. Tout ce que j'y voyais, c'était des personnages qui luttaient contre les éléments, mais toujours pour aider les autres et avec générosité. Alors après, l'étiquette politique, c'était pas très important. Ce qui comptait, c'était les valeurs qui, elles, étaient d'authentiques valeurs humaines. Et c'est vrai que Rahan, l'homme des âges farouches, je crois qu'on l'a pas oublié, que ça a marqué pas mal d'entre nous. Et donc ce goût pour l'aventure, et y compris ce goût, ou peut-être au moins inconscient chez les écrivains, pour des romans qui nous parlent d'avant l'histoire moderne. Et c'est le cas, je crois, de la plupart des écrivains qui sont ici. Christian Villain, votre roman, qui s'adresse donc à la jeunesse, collégien et très jeune lycéen en particulier, mais que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, c'est un roman qui est dans la collection donc Autre Monde des éditions Mango, et qui nous emmène dans un continent où, c'est vrai, il y a très peu d'imaginaire en France, l'Afrique. Et une époque où on est, je crois, à peu près en 1700, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ.
1700 avant Jésus-Christ, oui. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire sur le territoire du Mali actuel, plus tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, jusqu'à l'Égypte, il y avait une civilisation qui était installée, qui est pratiquement inconnue. C'est le pays mandé. Ils appellent ça le pays mandé, et c'est inconnu chez nous, mais ils avaient quand même développé des valeurs intéressantes, parce que ils étaient déjà en lutte contre l'esclavage depuis 1200 ans, ils luttaient contre les civilisations classiques, dites classiques, avec des moyens technologiques extraordinaires pour l'époque, puisqu'ils avaient la maîtrise du fer. Ils connaissaient la technologie du fer, alors que dans l'Antiquité classique, ils ont découvert la technologie du fer plus tard, un siècle, pas loin d'un millénaire plus tard. Mais leur avantage, c'est qu'ils avaient du fer météorique, alors que la technologie du fer, après, s'est développée à partir du minerai, qui est beaucoup plus compliqué.
Le personnage, ça démarre par une sorte de, je dirais pas d'enquête policière, mais on a enlevé une jeune fille. On a enlevé une jeune fille et un garçon, un de ses amis, se rend compte à voir un objet par terre que ça n'a pas vraiment un enlèvement, c'est pas du tout volontaire, et soupçonne d'ailleurs peut-être un chef de village d'être dans l'affaire. C'est un renvoi au fait que parfois certains notables de ces pays collaboraient avec les esclavagistes, mais je veux dire, c'est pas nouveau selon les civilisations. Et donc ça démarre comme ça, par une sorte de traque, où il s'agit de retrouver à temps ces esclavagistes avant qu'ils aient le temps d'aller trop loin, d'emmener donc dans des pays où là on ne pourra plus rattraper les victimes, parce qu'évidemment cette jeune fille n'est pas la seule qui a été radiée.
Oui, et d'ailleurs dans chaque village il y avait le nom, il y avait un sentier qui s'appelait le sentier de la honte, où c'est par là que sortaient les gens qui étaient kidnappés et emmenés en esclavage. C'était une pratique quand même relativement pas courante, mais qui arrivait même au sein de famille. Des fois, le frère aîné se faisait enlever par des esclavagistes. Il était donné par un frère cadet qui ambitionnait de devenir le frère aîné. Et c'était assez dur. Mais c'est une... ça remonte, l'esclavage dans ces terres, ça remonte vers 3000 avant Jésus-Christ. Et ce sont des Noirs qui l'ont institué, puisque ce sont les Soninkés qui sont arrivés, qui étaient forgerons et tout, justement, et qui ont pris les populations locales en esclavage domestique. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'esclavage en Afrique. Et ça s'est poursuivi après.
Et puis, Bernard Simonet, on passera vite, parce que tout simplement, il n'est pas là. Il a dû avancer son départ. Ça n'était pas prévu au moment de la programmation. Donc, même s'il a écrit un livre tout à fait intéressant qui se passait dans les volcans d'Auvergne 7000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, nous n'en dirons rien. Il sera ainsi puni de nous avoir quittés un peu plus tôt que prévu. Jonas Lenne, vous avez écrit des nouvelles, tout d'abord, entre autres des nouvelles policières, de nouvelles policières de science-fiction qui se passent dans un futur avec un enquêteur. Mais là, vous êtes plutôt là pour un roman jeunesse, vous aussi, dans la collection Autre Monde de chez Mango. Collection
dont Royaume Perdu. Oui.
Royaume Perdu, qu'est-ce que j'ai dit ? Autre Monde, c'est la première, c'est la collection de science-fiction.
Autre Monde, ce sera l'objet d'un roman prochain. Bientôt, oui.
Quand ça sera de la science-fiction. Là, on est plutôt dans la fantaisie. Et une fantaisie, je précise que cette collection est dirigée par un authentique écrivain qui est notre ami Xavier Mauméjean. Mais vous me pardonnerez ce petit confusion de collection. La fatigue au bout de 4 jours commence à se faire sentir. Et contrairement parfois à l'optimisme de notre ami Bernard Werber, le cerveau a quand même des limites. Donc, vous allez faire à très très forte concurrence, Jonas Lenne, le personnage de Sinbad le marin qui nous fait rêver, qui nous envoie dans d'autres pays, dans d'autres continents, on nous emmène ailleurs, c'est-à-dire toujours dans les livres, la construction à partir de légendes ou de traditions. C'était une des forces de cette collection d'édition Mango. Et donc, pourquoi vous avez choisi de nous emmener plutôt au Macrèche ou dans ces régions-là? Sinbad le marin, c'est situé où exactement? La légende, vous me rappelez un peu?
Bagdad? Sinbad, c'est Bagdad, oui. Voilà. C'est un personnage qui quitte Bagdad et qui va parcourir toutes les terres qui ont été parcourues à l'époque par les voyageurs arabes. Pourquoi Sinbad? Sinbad, c'est un personnage de mon enfance. Alors il y avait Raon aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais Sinbad, c'est le deuxième personnage de mon enfance que j'ai découvert à travers le cinéma d'abord, pas à travers la littérature. Et bon, c'était un film de Nathan Jurand, je me souviens plus tout à fait du titre. Le personnage de Sinbad qui était présenté, ce personnage hollywoodien, j'ai découvert qu'il était complètement différent en réalité dans la littérature, dans les mille et une nuits, voilà. Ça, c'était une première étape de ma découverte de Sinbad. La deuxième étape, ce sont mes études d'histoire et c'est une rencontre avec un professeur d'histoire contemporaine qui nous enseignait le Moyen-Orient et qui évidemment pour essayer de mieux nous faire comprendre cette civilisation nous a fait découvrir le monde arabo-musulman plus ancien.
Xavier Mauméjean, vous êtes le directeur de cette collection. Justement, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot sur la logique qui a amené le directeur de collection et l'écrivain que vous êtes, de choisir une fantaisie qui s'appuie sur la tradition, la légende, et ces légendes du monde entier.
Alors, l'intention, elle est d'abord... Elle apparaît d'abord en tant qu'auteur. Moi, j'ai une partie de mon travail d'auteur qui touche au passé. Donc, j'avais déjà un élan naturel vers le passé. Effectivement, quand on m'a proposé de créer une collection de fantaisie à destination de la jeunesse, j'ai pas voulu refaire une énième collection, d'autant qu'il y en avait des très bien. Et par contre, j'ai souhaité très rapidement dans l'élaboration du projet de collection faire découvrir les immenses richesses des mythes, des cultures et folklore du monde à notre lectorat, à notre jeunesse. Et donc, ça supposait une orientation évidemment vers le passé, mais pas forcément un passé historique, c'est aussi un passé mythique. Et dans la collection, on trouve les deux types d'approches. Par exemple, là justement, dans ces deux ouvrages, on a affaire à un très gros appui historique, un vrai souci de reconstitution, et puis à un moment, une dimension merveilleuse de mythologie qui permet d'avoir les deux formes de passé qu'on pouvait explorer. Le passé inventé, le passé mythique, et le passé réinventé, le passé historique. Et dans cette collection, par exemple, je vais prendre le dernier exemple, qui est dans un grand format, qui est le Robin des Bois de Jérôme Noirez, La Dernière Flèche, où là, il s'amuse, eh bien, il a réussi à faire revivre un personnage de légende, Robin des Bois, dans un passé historique très reconstitué. Donc là, on a les deux fusions, enfin la fusion des deux passés qui intéresse la collection.
Là aussi, est-ce que à la fois le directeur de collection et l'écrivain que vous êtes, Xavier Méméjean, est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à trouver des livres justement qui parlent de périodes un peu situées historiquement, mais qui sont dans un passé? Ce qu'on appelle en plaisantant, avec un petit clin d'œil, les âges farouches. J'ai l'impression quand même, là, il y a plusieurs romans. Alors, il y a bien sûr l'effet de la collection, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu dans l'air du temps et qu'il y a à nouveau un intérêt des éditeurs et sans doute des lecteurs pour ces périodes historiques et ces mondes parfois un peu méconnus, oubliés ou marginalisés dans nos sociétés occidentales.
Oh bah, il y a deux éléments. Il y a l'intérêt pour l'historique en général. Et moi, par exemple, je me réjouis de revoir Angélique en librairie. On peut ne pas aimer, mais c'est une véritable création de fiction. C'était très très bien de la retrouver ici. Donc ça, c'est pour l'intérêt à l'égard de la romance passée. En fait, Montaigne dans les essais distingue trois types d'historiens. Il y a les historiens simples qui décrivent une période. Il y a les historiens excellents qui analysent une période. Et il y a ceux qu'il appelle les autres, avec mépris, qui inventent. Et moi, j'aime bien les autres, en fait. J'aime bien la fiction, la réinvention du passé historique, quel qu'il soit. Et alors maintenant, pour répondre plus précisément sur les âges farouches, oui, tout à fait. Il y a un retour à l'archaïque, mais même, moi je l'avais fait dans Car je suis Légion parce que ça m'intéressait, donc Babylone. Il y a un retour à l'archaïque, à la télévision. Il y a, même si c'est une civilisation avancée, la Rome de la série Rome, elle est dure, elle est violente, etc. Et oui, je pense qu'il y a un intérêt pour quelque chose qui nous paraît familier, mais qui ne l'est pas dès lors qu'on la rend avec naturel et naturalisme. Et, par exemple, Rome, la série Rome, c'est quelque chose à voir. Enfin, il y a une idée toute simple et remarquable qui est de mettre des graffitis sur les murs, évidemment, et ça va de soi. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un intérêt et un élan vers ce passé brutal.
Alors justement, Car je suis Légion, vous avez choisi aussi une époque et vous avez choisi un lieu. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, justement, Xavier Méméjean?
J'avais eu... J'avais été intéressé par Babylone il y a longtemps, quand je faisais des études de religion, et j'avais appris un détail qui m'avait passionné, c'est que les magistrats de Babylone avaient donné lieu à la figure de Satan chez les Hébreux, puisque une grosse partie du peuple juif avait été exilé sur Babylone. Et cette idée qu'il y avait une assise historique à Satan m'avait intéressé, et donc j'avais consacré un roman à bout de travail de recherche historique à Babylone et à Satan, d'autant que il y avait tout était là, les jardins suspendus de Babylone, c'était l'Éden, les jardins d'Éden, la remontée, la tour de Babel, c'est une sorte de chemin, tu vois, d'initiation, quoi. Et là, une fois de plus, je mêlais l'historique au mythologique.
C'est amusant parce que ça, Bagdad, voilà. Et puis Babylone, enfin, on est quand même dans pas n'importe quelle zone du monde. une zone qui est aussi aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, une zone de guerre.
Mais 15 000 pièces volées. 15 000 pièces que des terrains de fouilles écrasés par les humeurs, on ne pourra plus jamais tirer quoi que ce soit d'une datation des sols. Oui, il faut le dire aussi.
Et c'est pourtant un des berceaux de la civilisation humaine. Je ne parle pas de tel type de civilisation, vraiment de notre civilisation terrienne collective. Et quelque part, faire revivre, y compris par la fiction, c'est peut-être de votre part, je me trompe peut-être, vous me le direz, aussi un hommage à la diversité.
Ah oui, tout à fait. C'est parce qu'on oublie ou on veut faire oublier que Bagdad il y a 1000 ans au 9e siècle, ça a été une des capitales du monde avec Constantinople et puis enfin l'Empire romain s'était effondré. Voilà, donc les Arabes ont pris le relais. Ils ont porté la culture et sans eux, il y a les Grecs. La culture, une grande partie de la culture grecque ne nous serait probablement pas venue. Ils ont servi de relais aussi pour tout ce qui venait de l'Extrême-Orient, la Chine, l'Inde. Ils ont été des passeurs essentiels, complètement nécessaires. Ça, je veux pas qu'on l'oublie. Enfin, moi, je ne veux pas qu'on l'oublie et je veux pas qu'on essaie de le faire oublier parce qu'aujourd'hui, la politique, la diplomatie ont plutôt tendance à vouloir nous entraîner du côté de ce fameux choc des civilisations. Et voilà, non, je crois qu'on a plus intérêt à trouver ce qui nous rapproche et la culture, voilà, ce qui nous rapproche.
C'est d'ailleurs pour ça que aux Imaginales, on trouve des gens venus de pays nombreux, divers. On continuera à le faire. On a aussi bien invité des Cubains que des Américains. Et cette année-là, c'était amusant de voir un auteur américain, un auteur cubain sur la même tribune, alors qu'ils n'auraient pas pu le faire facilement, ni d'ailleurs à Cuba, ni aux États-Unis. Et que c'était vraiment quelque part ici un lieu de liberté. Ça va tout à fait dans le sens et de facilité qu'ont les auteurs, et je crois d'acceptation de notre public, de débats riches. On nous dit qu'il ne faut jamais parler de religion, c'est violent tout de suite. Et hier, on avait un café littéraire où on parlait de religion et on n'était vraiment pas d'accord, y compris moi parfois avec certains auteurs. Et tout s'est passé avec une écoute, une attention, un respect, comme quoi il n'y a pas de sujet tabou, il y a juste des façons de traiter les sujets. Pourtant, sujet tabou, Christian Villa, vous attaquez à un sujet. Parce que, à la fois, l'Occident a tellement longtemps voulu nier, continue à vouloir nier pour certains, en tout cas, de nos concitoyens, de nos responsables, les dégâts monstrueux que l'esclavage industriel, comme il y a eu le crime de masse industriel, esclavage industriel vers les Antilles et vers les Amériques, ont dépeuplé et créé durablement ce qui provoque aujourd'hui la situation africaine. Mais vous dites aussi, et ça peut déranger certains, parfois dans l'autre position, que cet esclavage n'est pas, même si le plus massif et le plus monstrueux a été mis en place par l'Occident, mais qu'il y avait aussi des complices parfois sur place, et que originellement, il a été créé par d'autres civilisations. Et il n'y a à avoir, me semble-t-il, à lire votre roman, ni repentance totale, ni refus d'accepter nos responsabilités. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que votre roman, c'est pas aussi une façon de dire la vérité, c'est toujours la liberté?
Oui, oui, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est ce que j'ai voulu dire, mais je pense qu'il faut... c'était une institution en Afrique, l'esclavage, à partir du moment déjà où les Européens l'ont fait à leur sauce, c'était déjà tellement répandu sur place, il y avait déjà eu des guerres au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, il y a eu une guerre de libération qui a réussi, qui a créé un empire qui a duré 80 ans, donc c'est pas énorme, mais ils ont quand même unifié toute la région dans un grand empire avec un grand héros. Et ils ont fondé aussi ce qu'on appelait la charte du Mandé, et vous lisez la charte du Mandé, vous avez le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. 600 ans plus tôt. 1800, ouais. 500 ans plus tôt. Et précédemment, beaucoup plus anciennement, en 1200 avant Jésus-Christ, il y avait eu un autre, encore un ancêtre de cette déclaration qui s'attaquait toujours au même problème, c'est-à-dire que l'homme naît libre et on peut pas le... C'est pas normal, c'est pas humain.
On a toujours l'impression que nos idées, surtout celles auxquelles on est attaché, il n'y a que nous qui les avons eues visiblement, même si elles étaient évidemment dans des contextes différents, présentées de façon différente, mais il y a parfois des choses qui surgissent, disent vos livres, dans l'humanité, quelles que soient les époques et quelles que soient les civilisations. Jonas Lenne.
Oui, ben... l'islam, moi, dans mon... Il y a un humanisme de l'islam, un humanisme musulman, ça aussi on le montre peu. Hein, on veut montrer surtout l'intégrisme. Et il suffit de se plonger dans les textes, de se plonger dans les histoires, découvrir une société raffinée, une pensée très belle parfois. Et voilà quoi, oui, il y a un humanisme musulman. C'est... Oui.
Pourquoi vous avez choisi justement, c'est à cause de ce sentiment-là, cette envie de faire partager une vision qui n'est pas la vision, je dirais, manichéenne, où le mal est qu'un côté, n'est que sur une religion, n'est que sur une époque.
Oui, mais enfin, c'est assez charnel, en fait, c'est un agacement souvent de voir, d'entendre des réactions par rapport à... Alors, le voyage, c'est partir vers les autres, mais c'est aussi laisser les autres venir à nous, hein. Et partager son territoire avec des gens d'autres cultures, ça peut créer parfois des problèmes, mais il faut les dépasser. Moi, l'humanisme, c'est accueillir. Voyager, c'est aussi accueillir. Et je me sens blessé quand j'entends des réactions, réactions de racisme ordinaire ou de mal compréhension d'une culture autre, de méconnaissance.
Et d'autant que cette même culture s'oublie elle-même. Hein, cet humanisme de l'islam est oublié d'une partie de l'islam contemporain.
Ouais.
C'est ça qui est terrible. C'est quand une culture se coupe de ses propres racines.
C'est intéressant aussi, oui. Ce qui est intéressant aussi... Oui, allez-y. Allez-y, exceptionnellement, allez-y. Peut-être que ce serait mieux de le faire d'ici.
Excusez-moi, mais je vous trouve très pessimiste. Avec l'Institut du monde arabe, qui a quand même une vraie aura en France, et Malek Chebel, qui a quand même sa place et qui est très très reconnu, je trouve que l'islam, qui est très tolérant, qui est humaniste, comme vous le dites, il est bien mis en valeur.
Ah, tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que toute la population française a accès à l'Institut du monde arabe? J'en suis moins perçu. Enfin, je veux dire, la perception de l'islam en France, elle se fait surtout par les journaux télévisés et par les discussions entre les gens au café ou voilà. Dans, c'est tout ce que. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors bon, peut-être que je me trompe, mais
peut-être pour prendre la petite place dans l'optimisme. Je partage pas mal votre avis, mais c'est vrai que cette remarque, même si en effet un centre fut-il brillant et passionnant, ne touche pas l'immense majorité de la population, mais vos livres, et c'est peut-être là qu'on en revient à la littérature, vos romans, ils sont destinés à qui? Ils sont destinés à de jeunes adolescents, ils sont destinés à des collégiens, c'est-à-dire que ce que vous nous faites partager, le voyage, la rencontre avec d'autres lieux, avec d'autres civilisations, est-ce que c'est pas, modestement, une part d'une réponse qui peut être donnée, non pas sur un plan idéologique, on n'est pas là pour ça, ou militant, on n'est pas là pour ça, mais que la littérature, elle peut justement faire partager. Est-ce que, quelque part, c'est pas la charte éthique et non pas moraliste de votre collection et de la façon dont les éditions Mango, justement, font que ces livres-là peuvent dire des choses aux jeunes, tout en leur racontant des histoires, parce que le but numéro un, c'est de leur raconter des histoires.
Ah bah, je suis très content que, par un biais inattendu, on aborde cette remarque, parce que je fais une petite parenthèse, mais qui est dans l'axe. Hein. Diriger une collection, c'est à chaque fois appliquer un concept, mais tenir compte des livres qui sont déjà parus. Donc c'est tout un jeu entre ce qui sort dans le présent et ce qui est sorti dans le passé, dans les âges farouches d'une collection. Et cette collection, pour l'instant, a réussi un équilibre entre toutes les possibilités, les idéologies qui peuvent être offertes. Par exemple, dans le jour du lion, on assiste à des exactions horribles de la part des chrétiens byzantins. La Légion écarlate, on a affaire à un génocide indien par des Romains. Via le biais d'une uchronie, les Romains arrivent en Amérique bien avant Christophe Colomb. L'idée de la collection, bon, on pourrait multiplier un pape au comportement pour le moins étrange en privé, etc. L'idée est d'offrir à chaque fois une culture avec ses avantages et ses inconvénients. Donc ça, c'est chaque livre qui le fait. Et en même temps, de porter une collection qui est d'offrir aux jeunes lecteurs des pistes de réflexion, mais aussi des images, des paysages, des objets d'art, des vêtements, un ensemble, de manière à ce qu'ils voient tout simplement le pour et le contre, et qu'ils puissent retenir, oui, des choses. Puis même, il n'y a pas simplement la politique. Par exemple, le roman de Charlotte Bousquet, La marque de la bête, aborde l'inceste de façon franche et en même temps très pudique. Oui, c'est une collègue. Et en plus, je parle un peu dans tous les sens, mais je veux dire que cette audace de la collection, qui est quand même d'offrir toutes les cultures possibles et pas toujours évidentes, elle est payée de retour parce qu'on a une extrême liberté. On raconte. Je n'ai pas censuré un auteur. Peut-être que les auteurs se sont eux-mêmes équilibrés dans leur texte, mais je ne crois pas que. Mais oui, justement, l'idée, c'est de s'ouvrir à l'autre et de faire que à mon prochain, il soit pas trop lointain, en fait.
Oui.
C'est assez juste parce que bon, c'est vrai que les étrangers en général, ils sont différents. Donc, s'ils sont différents, ils sont pas bien. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit un peu général. Et moi, quand j'ai fait ce bouquin, c'était surtout pour essayer de montrer les choses sous un éclairage différent. Quoi, j'ai pris une vieille thèse de l'anthropologie britannique qui dit « l'indigène a toujours raison ». Voilà, c'était ma position de départ.
J'ajouterais, je ne veux pas trop parler, mais en tant que directeur de collection, je suis obligé de... la facilité, le livre nul, ça aurait été de faire un bouquin, de demander à Christian, qui aurait refusé, de lui dire, tu me fais un livre, ça sera « L'esclavage, c'est mal ». Il passera pas pour moi, non merci. C'était pas le but. Là, c'est quelque chose... il donne l'origine d'un certain esclavage, il le décrit franchement, et après les gens pensent ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'il y a un message et une orientation morale dans le livre, mais c'est pas du prêchi-prêcha, c'est pas du catéchisme laïque. Il rappelle quelles sont les origines de l'esclavage. On aurait pu l'éviter, faire un bouquin commode.
Il y avait des personnages fantastiques qui sont mêlés à l'intrigue, mais ils avaient cette réputation aussi, mais c'était pas leur seule activité. Ils auraient pu être traités autrement, parce que il y a une légende d'ailleurs qui existe encore, qui est toujours répandue en Afrique de l'Ouest, sur des géants écrabouillés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des nains comme ça, mais ils sont toujours, ils ont gagné en densité ce qu'ils avaient perdu en hauteur, et c'est des créatures effrayantes. Qui aurait pu être traité autrement, mais j'ai préféré le traiter comme ça, parce que c'est comme ça que les gens principalement les recevaient. Leur activité, c'était d'enlever des gens dans les villages aussi, pour pas forcément pour l'esclavage, mais pour leur usage personnel aussi, alimentaire entre autres.
Est-ce que ça vous a donné envie de travailler encore dans les mois, les années à venir, sur d'autres romans pour la jeunesse ou pour adultes, qui nous plongerait à nouveau dans ces âges farouches, Jonas Lenn?
Ah oui, complètement. J'ai envie de revenir à Sinbad. Bon, on verra si ça peut se faire par la suite. Il faut que je trouve une bonne idée. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'idée qui soit à la fois assez simple, je pense, et assez forte pour y revenir, parce qu'il suffit pas d'enchaîner des voyages comme ça pour là il y avait la quête du père qui je pense donnait une force à mon livre. Bon, il faudra que je trouve quelque chose d'aussi fort pour autre chose, mais j'ai fait l'histoire, donc j'ai un appétit pour les autres époques. Quand j'avais contacté Xavier, parce que j'avais une idée de scénario qui se passait en Chine médiévale. Bon, il se trouvait que un roman avait déjà été écrit. Sinon, dans le recueil de nouvelles, le livre des Théophaniques, j'ai publié aux éditions Griffes d'encre, il y a une nouvelle qui se passe dans la Grèce antique, qui prend comme personnage Aristote, Alexandre le Grand. J'ai écrit aussi une histoire qui se passe dans la civilisation viking. Donc voilà, j'y reviendrai de toute façon, oui. Je ne sais pas de quelle façon, mais j'y reviendrai, oui.
Bon, je ne vais pas demander au directeur de collection s'il va continuer à publier des livres qui vont prendre place dans sa collection. Ça va de soi. Mais est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il est trop tôt pour annoncer les prochains livres qui pourraient nous entraîner encore sur ces âges farouches? Ou est-ce que vous n'avez pas de projet? Ou en tout cas, est-ce que vous êtes ouvert à ce type de sujet?
L'agenda 2011, il est fait. Alors, âge farouche, non, je réfléchis en même temps. C'est plutôt vers nous. C'est le 18e. Non, je dis n'importe quoi. Il y a un très beau livre sur la Chine antique, une relecture de La Belle et la Bête par une jeune auteure, là vraiment une jeune auteure. Elle a publié qu'une seule nouvelle pour l'instant, Estelle Fay, et qui est un très beau texte. Donc il y a un texte des âges farouches. Les autres sont plus proches, mais il se trouve que c'est comme ça. Mais moi, j'aimerais beaucoup continuer ces explorations en grand format maintenant. Et tant qu'à faire, c'est un peu comme dans les 7 mercenaires, reformer certaines équipes. Oui, quand ça marche. Voilà.
Et puis, à force de diriger les autres, même si vous continuez à publier en adulte vos propres romans, est-ce que ça vous donnerait peut-être envie?
C'est pas moi qui publie mes romans, c'est justement.
Non, je disais. Décidément, moi, la fatigue veut jouer. Vous publiez vous-même des romans adultes, mais vous publiez dans votre collection beaucoup d'auteurs de la génération actuelle de fantasy. Vous les avez poussés en effet à explorer des territoires qui n'étaient pas habituels pour les auteurs français, et on a vu apparaître en effet ce type de sujet. Peut-être pas pour votre collection, mais pour une autre, si vous avez des états d'âme, même si aujourd'hui vous avez publié, Xavier Mauméjean, je me permets de vous le dire, suffisamment de romans pour qu'on ne crie pas l'autopublication. Si vous publiez un de vos romans, votre éditeur vous demanderait probablement pourquoi vous le publiez ailleurs. Donc je pense que la question ne serait pas posée. Ça vous donne pas envie de publier vous aussi un roman sur ces époques-là?
Ah oui, bien sûr, oui. J'ai un grand plaisir à voir se développer ces textes via des auteurs où je suis lecteur, mais oui, bien sûr, j'aimerais revenir aux âges farouches. Oui.
Eh bien voilà, ça nous ferait une jolie conclusion. Tant pis pour Bernard Simonet qui nous a lâchés trop tôt. J'ai enverré un mail pour le faire regretter notre petit entretien. Vous avez l'occasion de retrouver Jonas Lenn, Christian Villa et Xavier Mauméjean pour leur livre Sous la bulle du livre. Ils vous les signeront bien volontiers. Ou éventuellement, ça nous fait, parce que je vois que notre public n'est pas qu'un public jeune, je vous trouverai peut-être là justement quelques suggestions de livres à acheter, à offrir peut-être à des petits-enfants ou à des enfants ou à des amis, à des enfants d'amis. Enfin bref, il y a aussi moyen de faire circuler ces romans qui nous donnent une vision ouverte du monde. Merci.